Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour à vous et bienvenue dans Géopolitis. Jair Bolsonaro peut-il gagner l'élection présidentielle au Brésil malgré son bilan calamiteux face au favori Lula? À 20 jours du premier tour du scrutin, 20% des électeurs demeurent encore indécis.
Un bilan calamiteux pour Jair Bolsonaro. C'est le jugement sans concession du magazine suisse Géopolitis de la télévision RTS. Cela se ressent aussi dans les sondages. Le président ultra-conservateur du Brésil, surnommé le Trump des tropiques, est bien parti pour connaître le destin de l'ex-président américain à quelques jours du premier tour de la présidentielle.
Portanto, meu caro amigo, respeito sua opinião. Mas quero deixar bem claro, presidente Bolsonaro tem minha admiração.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et géopolitique. Cette semaine, au cours de deux épisodes, nous allons nous intéresser à la présidentielle brésilienne qui va opposer deux conceptions de société, deux visions de l'avenir de ce géant des matières premières. Dans ce premier épisode, on va se pencher sur le bilan de Jair Bolsonaro et sur les enjeux de son élection.
Tout de suite, le nouveau président du Brésil, il est en train de s'exprimer, Jair Bolsonaro.
Je n'ai jamais été seul. J'ai toujours ressenti la présence de Dieu et la force du peuple brésilien. Les prières d'hommes, de femmes, d'enfants, de familles tout entières qui, face à la menace de poursuivre sur la voie que ne veulent pas les Brésiliens...
C'était il y a 4 ans. Jair Bolsonaro, devant les caméras de France 24, prononçait son discours de vainqueur lors de la présidentielle du plus grand pays d'Amérique latine. Il avait fait la promesse d'être le garant de la démocratie et de la liberté, un serment envers Dieu pour faire du Brésil une grande nation. 4 ans plus tard, le candidat de la droite ultra-conservatrice remet son titre en jeu, face à lui, une figure historique de la gauche, Lula. L'ex-président pourra-t-il dégager du trône celui qui avait voulu balayer les années Dilma Rousseff, symbole selon lui de corruption et de violence? Ce sera en tout cas un choc de culture, un choc des extrêmes dans un pays qui ne parvient pas à émerger et à faire reculer la pauvreté malgré la richesse de son sol. Bolsonaro-Lula, c'est le duel au sommet de ce pays aux 210 millions d'habitants. Pour en parler, j'ai fait appel dans la story à Thierry Augier, correspondant des Échos au Brésil, et à Virginie Jacoberger Lavoué, journaliste aux Échos et auteur de Voyage au pays de Bolsonaro aux éditions du Rocher. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Et bonjour Virginie.
Bonjour.
Virginie, Jair Bolsonaro est devenu président du Brésil il y a 4 ans. On le présentait comme le Trump des tropiques. C'est un personnage complexe, un populiste pur et dur.
Oui, c'est tout ça en même temps. Les similitudes ne manquent pas entre lui et le ex-président américain Donald Trump. Parce que Bolsonaro, il est à la fois pro-armes, il a le soutien des évangéliques et de l'agro-business, il a un peu tout ce soutien très traditionnel du Brésil et c'est les mêmes soutiens qu'a eu quand même Donald Trump, en tout cas pour ce qui est des pro-armes et des évangéliques aux États-Unis. Donc, il y a vraiment un parallèle qu'on fait facilement. Et ce qu'on peut dire aussi quand on dit un pur populiste, ben ça c'est certain, on reconnaît d'ailleurs, moi je trouve, sa marque de fabrique un peu chez tous ces populistes dans leur entrain quand ils sont au pouvoir à entièrement casser leur pays, c'est-à-dire en fait ils ne gouvernent pas pour un peuple, ils gouvernent pour les gens qui les ont élus. Ils ne pensent qu'à une chose, c'est à fracturer davantage la société et lui n'a cessé de faire ça pour soigner bien évidemment son clan mais aussi parce qu'on voit très bien qu'il a une vision de la société qui s'arrête à ce qui l'intéresse lui-même, quoi, ce qui est quand même assez tragique. Et donc je pense qu'il est à la fois un Trump des tropiques mais il ne faut jamais oublier qu'il est aussi un pur produit de l'histoire brésilienne. ex-capitaine d'artillerie de l'armée brésilienne. D'ailleurs, un piètre militaire, on l'oublie toujours, on pense qu'il est à coquiner comme ça avec les militaires, mais les hauts gradés, en fait, ne l'aiment pas du tout, puisqu'il a été déserteur dans l'armée. Donc, piètre carrière de militaire. Et ensuite, en tant que député, il a été député pendant plus de 30 ans. Alors ça aussi, il est venu dans la campagne de 2018 en disant « je suis le chevalier blanc, le politicien anti-système ». Il était tout à fait le contraire. Il est un peu un Mélenchon d'extrême droite, rentier de la vie politique depuis 30 ans. Il a vécu de ça, hein, des deniers de la République en étant député. Et en 30 ans, il a réussi à faire passer deux lois. Donc on ne peut pas dire qu'il était non plus très actif sur ce terrain.
Il justifie aussi le travail des enfants par le fait qu'il aurait cueilli des bananes à l'âge de 8 ans. Il n'oublie pas de faire l'éloge de la torture et des dictatures militaires. Il est aussi connu pour ses propos racistes, sexistes et homophobes. C'est la vision renvoyée ici par les médias, l'insulteur en chef, pour reprendre les mots d'Yves Bourdillon dans un éditorial des Échos. Ça, c'est la vision occidentale. Mais Thierry, vous vivez-vous à Sao Paulo? Quelle est l'image de Bolsonaro au Brésil?
En fait, c'est un contraste. Il y a un peu l'image du Trump tropical, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais finalement, Bolsonaro, c'est le macho, c'est le viril qui émaille ses discours de connotation sexuelle, même lors de la fête de l'indépendance récemment. Bolsonaro, c'est l'homme à la moto qui sort en jet ski. Bolsonaro, c'est celui qui monte sur la table dans un restaurant à Londres pour faire un discours juste après les funérailles de la reine Elisabeth. Et puis d'un autre côté, c'est aussi quand même le personnage autoritaire, celui qui a nié la gravité de la crise du Covid et qui finalement, pour beaucoup, n'est pas à la hauteur de la fonction qu'il occupe.
Il y a tout de même des partisans, dont cette jeune fille qui interprète une chanson en faveur de la réélection de Bolsonaro le 2 octobre. Virginie, Jair Bolsonaro, c'est aussi un chef de clan?
Quand il a pris le pouvoir, il a quand même fait la promesse de venir pour donc plus de corruption, plus de violence, un gouvernement qui serait tout autre. Une des premières choses qu'il a fait quand il est arrivé, donc il y a eu l'intronisation en janvier 2019, c'est de gouverner avec un cercle qui est son cercle le plus proche, son entourage le plus influent, à savoir ses fils. Donc on peut même parler d'une forme de népotisme. Voilà, on l'a vu chez d'autres populistes, mais c'est très clair chez eux. Donc, en fait, ceux qui sont le plus influents autour de lui, c'est ses trois fils aînés. Ils s'appellent Flavio, Carlos et Eduardo. Et tous les trois ferment comme ça un cercle concentrique d'influence autour de lui. Et il leur a attribué à tous, enfin, donné des passe-droits, les a défendus. Il faut voir qu'aujourd'hui, tous les trois sont concernés par des poursuites judiciaires, des affaires qui, bien évidemment, on s'en doute, ont été stoppés. Par exemple, l'aîné est concerné par des emplois fictifs. Il a un passé lourd aussi d'homme politique parce qu'on le soupçonnait notamment de liens avec la milice. Donc, tout ça, c'est dans l'État de Rio. Et le second, donc Carlos, s'occupe des réseaux sociaux. Et lui, il fait tellement de zèle que même Bolsonaro l'a appelé mon pitbull parce qu'il ne lâche rien. En fait, Carlos, au-delà de gérer les réseaux sociaux, il est vraiment très proche de Jair Bolsonaro. On l'a vu dans beaucoup de déplacements, y compris des déplacements officiels très importants. Et il faisait partie du voyage, en tout cas, c'est ce qu'on a dit. Il participait au voyage à Moscou, la visite de Poutine, qui a quand même assez fait scandale, puisque, je vous le rappelle, c'était en février, c'était pas après la guerre, c'était juste avant. Mais on était quand même dans un climat de tension extrême. Et tout ce qu'a trouvé Bolsonaro à ce moment-là, c'est de hop, prendre un vol pour Moscou et d'apporter son soutien à Vladimir Poutine.
Ah, c'est le premier cercle du président, Flavio et Carlos. Et donc Eduardo, le troisième des cinq enfants, né de trois femmes différentes. Eduardo, c'est pas le pitbull. Son petit surnom, c'est Mito, alias le mythe. On dit de lui que c'est un Jair puissance 10.
Oui, on peut le dire. On peut dire que c'est en tout cas le plus va-t-en-guerre. Et c'est lui qui a le plus d'ambition aussi politique. Et en fait, il est... vous voyez, pour l'enquête menée pour les Échos récemment sur justement son entourage familial, il y a un des conseillers proches d'Eduardo, et d'ailleurs de tous les fils Bolsonaro, qui me faisait part d'une remarque qui est quand même assez incroyable, mais qui, à mon avis, est assez juste sur le personnage. Il disait, en fait, tout le monde a dit Trump tropical, mal, le Trump des tropiques, c'est Jair Bolsonaro, mais en fait, l'homme qui rêve d'être Trump, c'est plutôt le fils, c'est Eduardo. Et songez que, d'abord, il était, c'est quand même assez troublant, hein, il était invité par Ivanka juste au moment de l'insurrection. Alors évidemment, on peut espérer qu'elle n'était pas au courant que de l'insurrection qui était à venir, mais en tout cas, Eduardo était à Washington au moment de l'insurrection du Capitole. Il n'a rien trouvé de mieux quand Donald Trump a été donc chassé du réseau social de Twitter. Eduardo a changé quand même son profil avec la tête de Donald Trump et non seulement la tête, le drapeau américain. Il est quand même un représentant politique brésilien. Ça a été un scandale à Itamaraty, qui est l'équivalent du Quai d'Orsay, parce que c'était quand même compliqué pour eux de gérer ça. Il n'a pas fait que ça. Par exemple, au quatrième jour après l'insurrection au Capitole, il a posté des photos de lui en treillis avec le mot « la bannière America ». C'est quand même extrêmement troublant. Il a aussi posté plusieurs images en gros plan de munitions, d'armes américaines.
Eduardo, qui est quand même député et président de la Commission des Affaires étrangères, un élu adulé par les lobbies pro-armes, de l'agro-business et les évangéliques, il dit tout haut ce que pense son père, c'est son porte-voix, a expliqué un politologue, Eduardo, qui est aussi proche de l'ex-conseiller de Trump, Steve Bannon.
T'as voulu aller, t'as le final. J'espère que Dieu puisse l'utiliser de quelque manière.
La réaction de Neymar après la victoire de Bolsonaro en 2018, c'était au micro de l'AFP. J'espère que Dieu l'utilisera pour aider le pays d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose qui peut surprendre de ce côté-ci de l'Atlantique, le soutien de certains footballeurs vedettes comme Neymar à Bolsonaro, bien loin de son prédécesseur Socrates, l'ancien capitaine du Brésil au début des années 80 et par ailleurs docteur en médecine.
Tout à fait, ça peut paraître anecdotique, mais pour la population brésilienne, c'est important. Vous vous rappelez le docteur Socrates, comme on l'appelait à l'époque, il avait lancé un mouvement en faveur de la démocratie pendant le régime militaire, mais aujourd'hui, certains footballeurs sont nettement moins engagés dans ce mouvement. Mais il faut dire que tout cela est peut-être compensé par la mobilisation des artistes en faveur de Lula. On voit Caetano Veloso, le célèbre chanteur, et puis peut-être aussi, pour les plus jeunes, la chanteuse Anitta, qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui est farouchement anti-Bolsonaro.
Eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar claro para vocês de uma vez por todas, se ainda não ficou, que eu não apoio o candidato Bolsonaro.
É a chanteuse Anitta, qu'on entend ici, qui a diffusé cette vidéo où elle nie tout soutien au candidat ultra-conservateur.
C'est un défilé macabre ininterrompu dans les cimetières où les enterrements se font même de nuit. Depuis deux mois, chaque semaine, un nouveau record funeste est battu. Plus de 4000 morts pour la seule journée d'hier. La pandémie échappe à tout contrôle, avec des conséquences dramatiques chez les plus pauvres.
Le premier tour de la présidentielle au Brésil se tiendra le 2 octobre. Bolsonaro ne se présente plus en homme neuf, en homme nouveau, mais avec un bilan. Et le premier bilan qui vient à l'esprit, c'est celui de la crise du Covid, évoquée ici par TV5 Monde. On peut parler d'un désastre humain, Thierry ?
Ah oui, tout à fait, un désastre qui s'est soldé par presque 700 000 morts et un dédain du président Bolsonaro envers la crise humanitaire qui s'est déclenché à cette époque-là, notamment à Manaus, où il y a eu une pénurie d'oxygène. On a vu le président Bolsonaro faire preuve d'ironie parmi les malades et également à formuler des critiques envers les vaccins anti-Covid. Donc tout cela a été insupportable auprès d'une bonne partie de la population.
Et plus de 700 000 morts pour 215 millions d'habitants, un bilan qui pourrait jouer dans cette élection, comme il avait sans doute pesé dans la défaite de Trump, Virginie.
On peut dire que les deux se sont révélés un peu comme des super charlatans pendant toute cette pandémie, en minimisant l'ampleur de la pandémie de manière incroyable, quoi. Bolsonaro a parlé de grippette. Alors, c'est vrai que proportionnellement, si on parle de 215 millions, on pourrait se dire, OK, c'est peut-être moins que dans certains autres pays, mais il faut mesurer ça par rapport à la démographie du Brésil et une population qui est extrêmement jeune. Donc, c'est un pays qui n'aurait absolument pas dû être touché de cette manière. Et on estime aujourd'hui, puisque Bolsonaro n'est pas tranquille sur ce dossier-là de la pandémie, il a des poursuites, il y a toute une enquête qui est en cours. Et on estime qu'il y aurait à peu près près 400 000 morts, c'est quand même gigantesque, qui seraient vraiment de part de la responsabilité du gouvernement dans ce qu'ils n'ont pas entrepris. Bolsonaro a été quand même dans le déni total par rapport à sa pandémie jusqu'au bout, hein, pratiquement. Et même dans la campagne, il n'en a pratiquement pas parlé. Et c'est aussi son mode de fonctionnement, hein, le mensonge, le côté charlatan qu'ont un peu tous les populistes, donc lui, populiste pur et dur. Mais pendant la pandémie, il y a peut-être encore une image plus forte qui a encore davantage choqué les Brésiliens. C'est quand la famille Bolsonaro, donc Bolsonaro et ses fils principalement, ont passé des week-ends à faire des barbecues et du jet-ski, alors que la population vivait la tragédie de la pandémie. Ça a été quand même extrêmement mal vécu. Et je dirais même par certains de ses supporters, hein, qui avaient une vie sociale catastrophique. Et c'est aussi assez frappant dans ce clan Bolsonaro. C'est à la fois des ultra-conservateurs pour la famille, des pro-armes et tout. Et puis, ils ont quand même un style de vie. C'est un peu des Kardashians de l'extrême droite. Hein. Ils ont ce côté-là.
Les Kardashians de l'extrême droite, hein, je retiens l'idée. Thierry Ogier Bolsonaro avait été élu sur la promesse de faire reculer la violence et la corruption au Brésil. Quel est son bilan en la matière ?
C'est un bilan en demi-teinte. La violence a plus ou moins été contenue. Il y a beaucoup d'armes qui ont circulé dans le pays. Vous savez qu'il a libéré le port d'armes pour une grande partie de la population. Sur le front de la corruption, on peut dire qu'elle est moins importante qu'à l'époque du grand scandale Petrobras, évidemment. Mais il y a quand même eu quelques scandales, notamment au ministère de l'Éducation et puis au sein même de la famille de Bolsonaro.
On va parler aussi de son bilan économique, comment se porte le Brésil à la veille de cette présidentielle ?
Si on regarde les chiffres officiels en termes de la croissance, ça va pas trop mal et ça va même un peu mieux pour l'instant. On s'attend tout de même à une chute l'année prochaine. Les inégalités sont en hausse. La pauvreté extrême reste très très importante. Les taux d'intérêt sont très élevés pour dompter une inflation qui est proche des 10%. Mais surtout, ce que l'on craint, c'est le dérapage des dépenses publiques en cette année électorale qui pourrait déboucher sur un dérapage l'année prochaine.
On voit que sur le plan économique, hein, les nouvelles sont plutôt bonnes ou en tout cas rassurantes, en tout cas si on prend l'économie à l'instant T. Mais il y a quand même l'idée d'une économie ou d'une reprise qui n'a pas profité à tout le monde.
Oui, le grand enjeu de cette élection finalement, c'est la pauvreté et comment le prochain gouvernement va traiter cette question de la pauvreté. Il y a des enquêtes qui montrent que plus de 30 millions de Brésiliens souffrent d'insécurité alimentaire à des degrés plus ou moins importants. La pauvreté crève les yeux au Brésil. On se promène dans les rues, on voit des sans-abri, on voit des gens qui n'ont pas à manger. Donc c'est vraiment un problème de premier plan. Or, le président Bolsonaro et son ministre de l'économie disent « non, ça n'existe pas, ce sont des mensonges ». Ils disent ça ouvertement, le ministre de l'économie vient de le dire. Il dit « ces chiffres-là, ce sont des mensonges ». Donc il y a vraiment un enjeu pour traiter ce thème de la pauvreté et on va voir comment les électeurs vont réagir à cela.
Ouais, Virginie, je vous fais rebondir sur ce que vient de dire Thierry. Ce sera effectivement un des enjeux de l'élection.
C'est effectivement le grand problème actuel. Donc, en fait, ces dernières années, on a beaucoup parlé de l'émergence d'une classe moyenne au Brésil. C'était vrai, puisqu'en 2010, le Brésil avait 7,5 de croissance. Il faisait partie de ces fameux BRICS dont on attendait beaucoup, beaucoup d'espoir. C'était un pays d'avenir et qui, effectivement, était sur une forte progression. Tout ça poussé par le marché des commodities, des matières premières. Donc, on dit que ces dernières décennies, il y a eu donc à peu près 40 millions de Brésiliens qui ont accédé à la classe moyenne. On dit qu'il y en a plus de 30 qui sont sortis de l'extrême pauvreté, donc de la faim. Mais en fait, aujourd'hui, on évalue à peu près, là, sous Bolsonaro, avec le choc de la pandémie, les difficultés, à peu près à plus de 33 millions de Brésiliens qui, malheureusement, souffrent de malnutrition. C'est vraiment le retour de la faim qu'on pensait plus, puisqu'elle avait été éradiquée à la fin du second mandat de Lula da Silva.
C'est le retour de l'insécurité alimentaire au Brésil, dans ce pays qui est aussi une grosse puissance agricole, conséquence de la crise du Covid et de la hausse du prix du pain, le taux de pauvreté est repassé en 2 ans de 11 à 13% de la population, malgré le système de protection sociale mis en place durant la pandémie. Conscient du danger, le gouvernement de Bolsonaro a injecté près de 30 milliards de dollars dans l'économie au printemps dernier, en faveur notamment des plus démunis. Mais Thierry, n'a-t-il pas déjà grillé toutes ses cartouches pour faire face au ralentissement économique qui s'annonce.
Il a un bilan quand même en demi-teinte. Il a grillé ses cartouches peut-être, mais il a lancé plusieurs programmes de transfert de revenus qui sont polémiques parce qu'il y a un hiatus, il y a eu une période où il n'y avait plus d'aide pour les pauvres. Maintenant, ce problème a été relancé, a été gonflé. Il a un bilan en matière de libéralisation de l'économie qui est quand même positif. Pour les patrons, certaines privatisations n'ont pas été faites, mais Eletrobras, l'EDF brésilien, a été privatisé. Il y a eu beaucoup de concessions dans les infrastructures. La déréglementation a quand même avancé. Donc, en ce domaine-là, il y a quand même des points à faire valoir.
Le Brésil, c'est aussi la forêt, l'Amazonie, qui recouvre une bonne partie du territoire. D'un point de vue environnemental, quel est le bilan de Bolsonaro ?
Le bilan est désastreux. Il y a eu des destructions massives de l'Amazonie, comme on le sait. Je dirais qu'aux côtés de la pauvreté, l'Amazonie, c'est le grand thème de cette élection, l'environnement. Comment est-ce que le prochain président va traiter ces questions? On sait que la déforestation a augmenté, elle s'est stabilisée à haut niveau cette année, mais c'est un thème crucial qui a complètement démoli l'image internationale de Jair Bolsonaro et qui va être un thème crucial non seulement pour le Brésil, mais pour la planète tout entière.
Et Bolsonaro, surnommé aussi capitaine tronçonneuse, Virginie, dans votre livre « Brésil, voyage au pays de Bolsonaro », vous parlez d'un faux Néron de l'Amazonie en flammes, c'est-à-dire...
Oui, c'était un peu de la provocation parce que pyromane en chef de l'Amazonie, Bolsonaro l'est. L'année dernière, on a atteint en l'espace de 8 mois les taux catastrophiques déjà de ce qu'il y avait de feux de déforestation l'année précédente. Donc, on sent vraiment une accélération de la destruction de la forêt amazonienne. Ça, c'est incontestable et loin de moi l'idée de le dédouaner de sa responsabilité puisque lui a soigné l'agro-business, a en plus une haine totalement irrationnelle des populations autochtones. Ça, vraiment, ça mériterait presque toute une émission tellement c'est problématique et finalement, on en parle assez peu. D'ailleurs, au passage, il est assez curieux de voir que dans cette campagne, alors que l'écologie est quand même une problématique forte, climatique, ça a été complètement évincé du débat, et d'ailleurs par les deux candidats. Donc pour revenir à Bolsonaro, il est certes le pyromane en chef. Ce que j'ai voulu dire en disant qu'il n'était pas le Néron, c'est que malheureusement, la forêt amazonienne, et même au-delà, parce que vous avez le Cerrado, qui est une région aussi où il y a beaucoup de feux, qui sont liés à l'activité agricole. Malheureusement, la gauche, et notamment sous Dilma, il y a eu des lois qui sont passées qui n'ont jamais été appliquées. Et le bilan, quand vous regardez les chiffres, moi j'étais au Brésil en 2012 quand il y a eu la COP, COP+20, le bilan était catastrophique. Il y avait très peu de choses qui étaient faites. Donc, il ne faut pas non plus faire comme si c'était le premier à ne pas traiter cette problématique-là. C'était surtout ça mon intention.
Un dernier mot, Thierry, diplomatiquement parlant, Bolsonaro est-il parvenu à faire exister le Brésil un peu plus sur la scène internationale ?
Non, bien au contraire, je crois que le Brésil sort marginalisé de cette présidence de Bolsonaro. Jair Bolsonaro a déclenché des polémiques avec tout le monde, avec ses voisins en Amérique latine, avec l'Argentine, avec le Mexique, et puis surtout avec la Chine, avec ses propos péjoratifs à l'égard de la Chine, sans parler de la France, bien évidemment. On peut dire que le Brésil est devenu un paria sur la scène internationale, sauf peut-être, vous le soulignez tout à l'heure, avec Poutine, puisqu'il s'était déclaré solidaire avec la Russie à la veille de la guerre en Ukraine.
Virginie, on ne va pas rappeler ici les amabilités du président brésilien à l'égard de Brigitte Macron. Comme Trump, Bolsonaro semble avoir un problème avec le président français. Pourquoi ?
Emmanuel Macron incarne sans doute tout ce que Bolsonaro déteste. D'abord sur le point économique. Dès qu'il y a un politicien qui s'y connaît un peu en économie, c'est un problème pour lui, puisque lui-même a avoué qu'il n'y comprenait absolument rien. Mais au-delà de ça, dans ses convictions personnelles, même si dans son mandat, il s'est accompagné, parce qu'en fait, sa victoire électorale était aussi liée à ça, à l'assurance d'avoir un ministre de l'économie qui était quand même un peu reconnu et reconnu très libéral. Bolsonaro, jusqu'à qu'il soit élu, n'était absolument pas libéral. Il était ultra-conservateur, ultra-protectionniste. Et donc, pour revenir à Macron, oui, je pense que c'est quand même un peu tout ce qu'il déteste parce qu'il a sa représentation internationale. Il y a surtout le point important que les présidences de Macron sont quand même très engagées sur le terrain de l'écologie. On a eu les COP. Il a toujours considéré que la moindre déclaration sur l'Amazonie était une attaque sur la souveraineté du Brésil. Donc, il y a tout ce ressentiment qui était extrêmement fort.
Merci Virginie Jacob-Berger-Lavoué, journaliste aux Échos et auteur de Voyage au pays de Bolsonaro aux éditions du Rocher. Et merci Thierry Augier, correspondant des Échos au Brésil. On se retrouve demain pour un deuxième épisode brésilien consacré au revenant Lula.
Hier in Brasilien regiert ein Fiesling, mag Polizei und Militär und ballert gerne mit Gewehr. Die Ureinwohners vom Amazonas, die müssen weg, egal was soll's, für Ackerbau und Tropenholz. Der Bolsonaro sagt, geht hin und holzt ihn ab.
On se quitte avec Der Bolsonaro Song, des humoristes de la chaîne allemande NDR qui moquaient son amour des armes et son bilan environnemental calamiteux. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.